viro a cabeça pro outro lado e vou sonhar que logo mais você já vem. De me perdoar se eu fingir que não sei de nada, mas não me diz que vai embora. Espera a luz da madrugada, só amanhã quando acordar não tem ninguém. Vou me iludir a cabeça pro outro lado e vou sonhar que logo mais você já vem. Vou me iludir que é um sonho. Viro a cabeça pro outro lado e vou sonhar que logo mais você já vem. Vou me iludir que é cabeça pro outro lado e vou sonhar que logo mais você já vem.
Evelyne, de nous avoir parlé alors d'Annelise Grobetti et de Infiniment Plus. Nous allons maintenant évoquer avec Annette l'autre livre de notre écrivaine, de nos écrivaines romandes, celui d'Anne Cuneo, Station Victoria. Alors, est-ce que c'est une toute autre histoire? On part dans un tout autre monde, Annette?
Je pense qu'on peut dire qu'on part dans un tout autre monde. Encore que, comme Annelise Grobetti probablement a mis pas mal d'elle dans le livre dont on vient de parler, Anne Cuneo, bien sûr, dans ce livre, utilise pas mal d'éléments très personnels. Et ce n'est pas du tout une autobiographie, en aucun cas. C'est vraiment un roman construit, mais construit avec beaucoup de souvenirs. Et notamment l'héroïne Amalia est, bien sûr, en grande partie Anne Cuneo. Il se trouve que j'ai eu l'occasion, d'ailleurs, après avoir lu le roman, que j'ai eu d'ailleurs, je dis tout de suite, énormément de plaisir à lire. C'est un de ces romans que j'ai terminé une soirée non-stop.
Il est épais pourtant, tu as dû passer une longue nuit.
J'avais lu le début, mais enfin, quand je suis arrivée dans la deuxième partie, c'était les vacances, et je me suis dit vraiment, je n'irai pas me coucher avant de connaître la fin. Donc, pour dire que c'est effectivement un livre très bien écrit, très intéressant et qui surtout est extrêmement authentique. Et je pense que c'est ça qui fait entre autres la richesse de ce livre, c'est la façon extrêmement touchante, extrêmement émouvante dont Anne Cuneo transmet tout ce qui s'est passé pour elle à l'adolescence. Parce que j'y reviendrai plus tard, mais ce roman est en somme un roman d'apprentissage dans tous les fameux sens du terme qu'on peut utiliser dans la littérature. Mais je disais que j'ai eu l'occasion de lire un autre livre d'Anne Cuneo qui est ancien, qui s'appelle « Le temps des loups blancs » et qui est en fait, elle le dit d'ailleurs, « Portrait de l'auteur en femme ordinaire ». C'est aux éditions Bertil Galland et on lui a demandé de raconter un petit peu sa vie. Donc c'est plutôt ça, alors une autobiographie qui sur le plan, disons, de la lecture est beaucoup moins passionnant parce que ce n'est pas un roman, mais on retrouve pas mal d'éléments semblables, ce qui nous donne justement un point de comparaison tout à fait intéressant. Et effectivement, je me suis rendu compte qu'un des personnages de la fin du livre, qui est un directeur de colonie de vacances, et une personne que j'ai par hasard connue et dont elle parle aussi naturellement dans votre livre. Et c'est vrai que ça m'a donné très envie de connaître mieux un petit peu tous ces personnages. Et le fait de rencontrer quelqu'un qu'on connaît personnellement, je trouve que c'est quand même quelque chose de très important dans la littérature suisse romande. En tout cas, moi, je trouve ça très, très, très passionnant. D'ailleurs, quand je vais au cinéma et qu'on me montre une ville que je connais, j'ai aussi du plaisir, un autre plaisir. Je crois que c'est un autre plaisir que la découverte. Et il ne faut pas le minimiser.
Alors, peut-être en quelques mots ou en beaucoup de mots, tu nous racontes l'histoire de Station Victoria. On se situe où? Dans un métro? Dans une gare?
Non, la Station Victoria, c'est Victoria Station à Londres. Bien sûr que l'entrée du livre, c'est l'arrivée d'Amalia, jeune fille qui vient de Suisse, mais qui vient de Suisse en étant en fait une immigrée italienne, comme Anne Cuneo. Elle vient de Lausanne, elle est assez perdue, mais elle est extrêmement volontaire. Et elle veut effectivement, elle vient en Angleterre pour apprendre l'anglais, elle a uniquement quelques rudiments, mais surtout elle a la volonté de quitter la ville de Lausanne où elle était dans un orphelinat, parce que sa mère n'ayant pas du tout d'argent ne pouvait pas soutenir ses enfants et avait été obligée de mettre Amalia dans un orphelinat. Elle a un frère qui était aussi dans un orphelinat. Elle a l'occasion de venir en Angleterre parce qu'elle a connu une dame à Lausanne qui lui a dit qu'elle pourrait lui payer une pension en Angleterre pendant une année. Et elle part, elle a réussi à trouver l'argent pour arriver en Angleterre et elle a juste une adresse, le pensionnat où elle devra passer quelques mois. Et Station Victoria, elle arrive, elle est d'ailleurs complètement perdue. Et je voudrais peut-être vous lire justement le passage où elle arrive là, où elle ne sait pas comment se débrouiller. Elle a une adresse, mais qui n'est pas absolument fiable. Et je pense que c'est une façon aussi de vous démontrer la manière très, très agréable dont le livre est écrit, très rapide, avec beaucoup de dialogues, de manière très simple, mais pas simpliste. Alors, fillette, qu'est-ce que tu fais là? Serait-ce une voleuse d'enfants? Ne fais confiance à personne. Ils se servent parfois de gentilles vieilles dames, ont dit et répété ma mère, ma tante, les bonnes sœurs de l'orphelinat. J'attends, dit la voix de la justice implacable. Je n'arrive pas à retenir mes larmes. Si je ne dis rien, elle appellera la police, c'est sûr. Ces 9 dernières années, j'ai vécu dans la terreur de la maison de correction, dont je ne savais qu'une chose. Elle serait pire que l'orphelinat. Ne te plains pas, autrement on t'enferme. Sois poli ou tu finiras en prison. Une fille comme il faut ne dit jamais qu'elle a faim. Dis merci quand on te donne. Dans cette logique-là, quand quelqu'un vous parle, on répond. Sinon, ils appellent la police. J'étais si émue que moi aussi j'étais au bord des larmes, dira Miss Brown par la suite. Sur le moment, elle n'a pas l'air plus émue que ça. Elle attend. Elle incarne le danger. Je retiens mes sanglots et balbutie en français. Je ne parle pas l'anglais. Par Dieu, une Française. Là, je comprends. Non, je ne suis pas française, je suis italienne. Elle me fixe toujours. Italienne, j'articule dans mon désespoir. Ce n'est guère mieux, dit-elle en anglais, et je ne comprends pas, heureusement. Il fait presque nuit. La ville sent le brouillard, une odeur qui évoque Milan. Depuis mon enfance, c'est la première fois que je hume ce mélange d'humidité, d'échappement, de chauffage au bois et au charbon. Ça me réconforte. La petite dame fait un pas vers sa porte. Viens. Ce n'est pas parce que je comprends que je vais y aller. Vous entrez dans une maison et vous disparaissez à tout jamais. Personne ne sachant que je suis à Londres, il faut que je redouble de prudence. Viens petite, tu vas prendre froid et moi aussi. Viens, c'est l'heure du thé. Viens manger quelque chose. Manger, tu vois, et une bonne tasse de thé. Je vois très bien. Et j'ai une de ces fins, mais je ne la connais pas. No, thank you. Et je recommence à pleurer. Bien sûr que, comme vous l'avez deviné, Amalia entrera dans la maison de la vieille dame et cette dame, Miss Brown, sera effectivement l'autre héroïne du roman Station Victoria et qui va aider beaucoup cette jeune fille dans son apprentissage de l'anglais, va lui proposer des vacances et va être surtout la première personne dans la vie de cette jeune fille qui va s'occuper d'elle avec gentillesse, avec délicatesse et va l'aider notamment à se développer sur le plan intellectuel parce que Amalia est une jeune fille qui n'a pas eu l'occasion de faire des études mais qui est extrêmement avide de se former. Et on apprendra ensuite qu'à Londres, elle va passer un temps fou dans les musées, dans les bibliothèques, et qu'elle va être extrêmement curieuse de tout cela. Donc Miss Brown, qui est une personne cultivée, âgée, et qui est seule, va donc établir avec Amalia une très bonne relation. C'est un des aspects les plus importants du livre.
Mais si je puis me permettre, j'ai l'impression de me trouver dans un départ d'histoire qui ressemble étrangement à celui de Infiniment Plus dont nous parlions tout à l'heure. Une jeune fille qui s'en va et qui va aussi s'ouvrir comme ça tout à coup à un autre monde. C'est pas le même cheminement, c'est pas la même démarche, c'est pas forcément elle qui décide de partir, mais il y a aussi tout à coup aller à l'étranger pour découvrir un autre monde.
Bien sûr qu'on peut faire ce parallèle à ce que j'ai senti du roman d'Annelise Grobetti. C'est vraiment une femme qui a déjà une vie personnelle beaucoup plus importante. Ce qui fait l'intérêt du roman Station Victoria, c'est qu'il s'agit vraiment d'une adolescente. Amalia, elle n'a même pas 15 ans. Et à la fin du livre, elle est un petit peu plus âgée. La dernière partie se déroule en gros sur 4 à 5 ans. Mais les trois quarts du bouquin, ça se passe en Angleterre, l'année de ses 15 ans. Et c'est un but, je crois, que Anne Cuneo s'est donné en écrivant ce livre. C'est aussi restituer toute la fraîcheur de l'adolescence, la complexité des problèmes ressentis à ce moment-là et la découverte d'une manière extrêmement fraîche des relations amoureuses, bien sûr, mais aussi de la vie des autres, dont d'un pays, dans le cas particulier, mais aussi tous les adultes. Comment une jeune fille arrive à se représenter des adultes autour d'elle, comment est-ce qu'elle entre en relation avec eux. Et dans ce sens-là, c'est très très différent, je pense. L'héroïne Amalia est donc une fillette, enfin on peut dire presque une fillette, mais disons une jeune fille, extrêmement attachante. Elle est très petite, comme vous l'avez vu dans le petit passage que j'ai lu, elle se met rapidement à pleurer dès qu'elle a un ennui, parce qu'elle n'a aucun autre moyen de défense, elle se sent immédiatement dans un état second, et elle se sent tout de suite dans une situation où elle risque quelque chose, et sa défense, c'est se mettre à pleurer. On pourrait penser que c'est un petit peu agaçant, et étonnamment, malgré ses attitudes parfois un petit peu stéréotypées, eh bien, on découvre une personne qui est pleine quand même d'humour à laquelle on s'attache très très rapidement. Elle essaye en fait d'apprivoiser le monde. Elle me rappelait un petit peu un animal. Elle est sauvage, elle est effarouchée, méfiante, et en même temps, elle est donc très démunie, elle est très fragile, et tout le monde autour d'elle, en fait, va finir par l'aimer. Elle rencontre un tas de gens par hasard, et immédiatement, elle arrive à créer le contact. Et je crois que ça, c'est une des choses les plus importantes de cette héroïne jeune fille, c'est qu'elle découvre immédiatement les gens. Elle n'a jamais peur, elle pleure quand elle se sent agressée, mais dès qu'elle se sent en confiance, elle établit le dialogue. Et elle a rencontré comme ça des tas de gens, des jeunes notamment, dans la ville de Londres, ou alors des vieux au restaurant. Elle apprend à jouer aux fléchettes dans un bistrot. Et c'est des choses qu'on se dit, nous, on n'aurait pas le courage de le faire. On va boire un verre quelque part. On n'entre pas en relation avec la personne d'à côté, même si elle vous paraît sympathique ou seule, vieille ou jeune. Et là, elle a immédiatement envie de parler avec les gens. Et ça donne au roman une allure assez rapide. On voit beaucoup, beaucoup de gens défiler. C'est une espèce de galerie de personnages qui sont extrêmement agréables à découvrir.
Est-ce que c'est Amélia qui est une jeune fille particulièrement ouverte ou c'est Londres qui joue le rôle de la caverne d'Ali Baba et avec ses 1000 trésors qui tout à coup éblouissent notre héroïne?
Je pense qu'il y a les deux. Effectivement, Londres est pour elle une découverte merveilleuse. Elle dit à plusieurs reprises qu'elle a adoré l'Angleterre et que ça a été pour elle vraiment le premier lieu où elle s'est sentie dans un endroit agréable. Mais en même temps, elle est extrêmement sensible à autrui et elle arrive immédiatement à créer le contact. Et ça, c'est très intéressant à découvrir. Elle a aussi un contact avec la nature. Elle est très sensible à ce qui se passe autour d'elle. Elle fait de l'équitation. Elle rencontre des jockeys, des lads. Et elle apprend immédiatement à apprivoiser le cheval. On voit immédiatement qu'elle a un contact avec des êtres faibles, disons, des êtres sans défense. Je crois que ça lui donne une personnalité très particulière. Alors, je vais peut-être vous lire un passage de nouveau où elle rencontre justement quelqu'un tout à fait par hasard. J'ai le vague souvenir d'une grande place où je dois attendre Madame Kane. Il y a un marché. Allez, la rouquine, tire-toi. Il doit être un peu plus âgé que moi et il tire une charrette qui déborde de légumes. Tu veux que je t'aide? Et pourquoi est-ce que tu m'aiderais? Si je tirais une charrette chargée, moi, j'aimerais bien qu'on m'aide. Dans ce cas-là, arrive, là. Lorsque les légumes sont à l'étalage, il m'offre un thé que nous allons boire aux lianes d'en face. Nous échangeons nos adresses. Il s'appelle Herbe. T'es marrant, remarque-t-il. Les filles ne sont pas comme toi d'habitude. Qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse pour être une vraie jeune fille? Tu devrais laisser tomber ton mouchoir avec un petit sourire. Arrête, c'est complètement idiot. Tu vois, c'est ce que je voulais dire. Elles ne trouvent pas. Je suis persuadée que la plupart d'entre elles pensent comme moi. Mais ce ne sont pas elles que tu remarques. Amalia? Oh, allô, Madame Kane. Voici Herbe, on vient de faire connaissance. Votre fille m'a aidé à transporter des tonnes de légumes. Elle est forte comme un cheval. Nous nous quittons.
Oui, ça c'est aussi très vivant, effectivement, ce genre de dialogue et de rencontre. Est-ce que tu as l'impression, Annette, que la part de journaliste d'Anne Cuneo joue un rôle aussi quelque part dans sa façon d'écrire, qui peut être plus incisive, plus observatrice du détail immédiat.
Je ne connais pas assez, en fait, je dois le dire, disons, le travail de journaliste que Anne Cuneo accomplit donc régulièrement. Mais je pense qu'effectivement, elle a un intérêt très fort pour les gens. Elle s'intéresse vraiment à tous les détails qui font la vie. Et dans ce sens-là, elle accorde de l'importance à tout ce qui se passe autour d'une relation, à tout ce qui se passe dans le contexte d'une histoire. Et il y attache de l'importance. Et c'est pour ça que ce livre, effectivement, est assez long. Hein. Il a à peu près 400 pages, mais qui se lisent très, très facilement, comme je vous l'ai dit au départ. On peut peut-être revenir un petit peu à la personnalité d'Anne Cuneo et à la manière dont elle a fait ce livre. Elle nous a donc raconté à l'inédite, comme je l'ai évoqué au départ, qu'elle a mis beaucoup d'elle dans ce livre. Et je crois que dans ce sens-là, c'est intéressant de faire la connaissance aujourd'hui d'une manière un peu plus approfondie de cette femme journaliste qui parle sur les ondes de la radio romande, de la télévision suisse romande et qui est connue à la fois depuis longtemps en Suisse romande, mais pas très bien connue. Et je crois que ce roman, Station Victoria, c'est un petit peu un achèvement dans sa création littéraire. Elle a fait des livres plus courts, des nouvelles. Avant, elle a écrit des nouvelles. Elle a donc écrit aussi des textes, des essais, des critiques littéraires. Mais elle a aussi écrit donc des pièces de théâtre pour la radio. mais c'est le premier long roman qu'elle écrit et je trouve qu'elle atteint là à une qualité d'écriture qui est très achevée. Elle a fait un très grand bond en avant, me semble-t-il, par rapport au récit de sa propre vie qu'elle a déjà publié. Et dans ce sens-là, j'aimerais bien dire ici à quel point ce livre est aujourd'hui en Suisse romande un bouquin très intéressant à découvrir.
Tu nous as raconté le début de l'histoire, mais peut-être qu'il serait bien qu'on comprenne les étapes essentielles.
Pour te raconter la manière dont Anne Cuneo a écrit ce livre, elle a donc tout est rédigé donc à la première personne. Et je crois que pour elle, c'était aussi important de se remettre complètement dans le souvenir de cette époque qu'elle a réellement vécue. Mais bien sûr, en même temps, il y a de temps à autre des moments où l'auteur dit « Ah, je me rappelle, c'est comme ça que ça s'est passé ». Et ça nous donne un petit peu le circuit de la femme écrivain qui fait un roman complet sur une jeune fille de 15 ans, mais qui en même temps essaye de comprendre pourquoi est-ce qu'elle a vécu ça. Et dans ce sens-là, il y a un petit dialogue à deux voix. Au début de chaque chapitre, elle dit « Ah oui, je me rappelle à ce moment-là, il faisait beau, il faisait mauvais, il pleuvait, etc. » Mais en même temps, mais elle n'a pas vraiment la distance critique. Elle essaye de se remettre complètement dans la peau de la jeune fille qu'elle était. Et moi, je trouve qu'elle y est parfaitement bien parvenue. C'est dans ce sens-là, je trouve qu'il y a des accents de sincérité très, très forts dans ce livre. Amalia, elle a 15 ans et elle ne triche absolument jamais. La plus grande partie de ce roman, c'est donc le récit de l'année qu'Amalia passe en Angleterre. Comme vous l'avez vu au début, elle a la chance de faire connaissance avec une vieille dame qui l'aidera beaucoup par la suite. C'est en somme une sorte de bonne fée, marraine, qui va accompagner Amalia dans sa découverte de la vie. Elles échangent beaucoup les deux et c'est l'occasion d'avoir en somme une deuxième histoire. C'est celle de Miss Brown qui a vécu avant la guerre. Et on découvre aussi un autre type de personnage. Elle rencontre des jeunes gens férus de cheval. Elle s'initie à l'équitation. Elle noue une idylle avec un de ces jeunes jockeys qui s'appelle Thomas. On découvrira à la fin du livre, d'ailleurs, comment elle retrouvera peut-être Thomas un jour et une façon très habile de finir le livre. Je ne vais pas vous en dire plus. Essayons de vous mettre un petit peu l'eau à la bouche. Amalia, elle est une sorte de génie enfant. Elle est tellement avide d'apprendre qu'elle, sans arrêt, elle pose des questions. Alors, qui est Picasso, qui est Uccello, qui est Mozart, qui est Beethoven, etc., etc., parce qu'elle ne connaît absolument rien. Et ça se fait presque à la manière d'un jeu. Et de nouveau, on pourrait se dire, c'est un peu agaçant, hein, quelqu'un qui veut toujours apprendre, vraiment, ça se porte mal. Est-ce qu'elle s'amuse de temps en temps? Et elle s'amuse parfaitement aussi à certaines occasions. Elle découvre aussi les boîtes de jazz, elle découvre aussi le plaisir de boire de la bière, enfin des choses tout à fait simples, tout à fait élémentaires. Mais c'est ce côté avide de connaissances, moi, je l'ai trouvé extrêmement riche et puis extrêmement touchant. On sait d'ailleurs, en lisant la biographie d'Anne Cuneo, qu'elle aussi, c'est une autodidacte parfaite dès la petite enfance. Et je trouve que c'est un hommage à lui rendre que de respecter cette recherche continue de culture.
Est-ce que tu as l'impression que la vie de l'adolescente qu'on découvre en lisant ce livre, est-ce qu'elle va toucher les adolescents d'aujourd'hui parce que c'est encore une histoire qui est possible aujourd'hui ou ça nous rappelle des souvenirs à nous qui ne sommes plus adolescentes?
Alors, je dois dire que je me suis posé cette question. Je n'ai pas encore pu faire le test, mais j'espère bien pouvoir le faire prochainement. J'ai l'impression que des adolescents d'aujourd'hui auraient beaucoup de plaisir à lire ce texte parce que, justement, la communication, elle est très facile avec l'héroïne. c'est vraiment quelqu'un qu'on a l'impression qu'on pourrait rencontrer et bavarder avec elle au coin d'une table. Et je pense que c'est quelque chose de très fort chez les adolescents d'aujourd'hui. Il y a notamment une relation à la musique qu'elle raconte. Elle va justement dans des boîtes le soir. Et ça, c'est quelque chose qui est très important chez les adolescents d'aujourd'hui. Et aussi ses contacts donc avec des gens de tous bords. Il y a aussi un passage où elle découvre la relation amoureuse physique avec son ami. Et c'est raconté d'une manière très simple, mais extrêmement honnête. Et je crois que ça pourrait être effectivement quelque chose qui séduit les adolescents. Parce qu'on n'ose pas toujours le dire d'une manière si simple.
Alors évidemment, Station Victoria d'Anne Cuneo ou bien Infiniment Plus d'Annelise Grebetti, vous pouvez les trouver à la librairie des femmes, librairie L'Inédite, rue Cardinal Mermillot à Genève, Carouge en particulier. Depuis la parution de ces deux livres, c'était en 1990, Annelise Grebetti, par exemple, a publié un autre livre qui s'appelle « Belle dame qui mord », des courtes nouvelles qui racontent un peu l'entrée en souffrance, l'endouleur, comme dit Annelise Grebetti, et un peu aussi les fruits que porte la douleur à un moment donné. Des nouvelles très très belles et dans lesquelles on entre comme ça dans une comme si on ouvrait une porte, une histoire, et puis, sur la pointe des pieds, on la referme. Anne Cuneo, bien sûr, a aussi publié d'autres livres que j'espère que nous aurons l'occasion de découvrir, peut-être d'ici peu, où nous pourrons réinstaurer ce rendez-vous mensuel avec nos amis de la librairie L'Inédite, Annette Zimmermann et Evelyne Merlac. Voilà pour aujourd'hui, Remue Ménage, c'est terminé. La semaine prochaine, nous avons rendez-vous avec des femmes qui vont évoquer la médecine, mais la médecine d'une façon un peu particulière, puisqu'il s'agit de l'évoquer au travers de ce qui peut se faire en Afrique. Les guérisseurs, les herbes naturelles, etc. Et nous découvrirons ces choses en compagnie de nombreuses femmes, entre autres Marie-Noëlle Andersen, qui est à l'origine de cette émission, qui me l'a proposée. Voilà, alors à la semaine prochaine dans Remue Ménage, Onde Femme, Radio Zone 93.8. Et j'ai envie de vous faire découvrir pour terminer une chanson extraite d'un disque qui vient de sortir, de la musique de Suisse romande, et oui, aussi Suisse romande, qui semble-t-il, elle aussi a de la peine à se faire accepter et écouter en Suisse romande. C'est un groupe qui s'appelle Le Soldat Inconnu. Le titre de leur nouveau CD, c'est Entre ciel et trottoir. Et certaines de ces musiques sont écrites et chantées par la chanteuse du groupe, c'est Monique Froidevaux, que j'espère bien que nous aurons l'occasion de rencontrer à nos micros d'Onde Femme, Remue Ménage, et que vous découvrez avec nous très prochainement. Mais tout de suite, c'est Entre ciel et trottoir. À la chanson, c'est Monique Froidevaux et avec d'autres musiciens de Suisse romande.
Sans retour vers demain, la froideur du matin me surprend en chemin. Je remonte la rue harassée, pressée de regagner mon lit et de m'y réfugier. Que fais-tu, inconnu, couché sur le pavé? Avec pour seul abri l'aube jaune étoilée. Je passe à tes côtés d'un regard brisé, impuissante à trouver un geste pour te relever. trouve la maison. Le sommeil ne vient pas. J'écris cette oraison d'un élan maladroit et d'un cœur aux abois. Entre ciel et trottoir, je tisse un cri d'espoir pour que la rue ne soit plus jamais un mouroir. Entre ciel et trottoir, je tisse un cri d'espoir pour que tes frères et toi trouviez aussi un toit.
Le soldat inconnu dans Ondes Femmes, Radio Zone 93.8. Et tout de suite, les informels.